Le pouvoir imaginaire, une série d'émissions enregistrées à Toulouse, à Saint-Pierre-des-Cuisines, dans le cadre du Marathon des mots, en partenariat avec Philosophie Magazine. Aujourd'hui, le crépuscule de la démocratie, en compagnie de Nicolas Grimaldi, à la lecture Julie-Marie Parmentier, à la réalisation Rafik Zénine.
La France a le sommeil agité, mais elle dort. Après tant de tribulations, de révolutions, de convulsions, elle n'aspire qu'à se reposer. Qu'elle devrait se réformer si elle voulait survivre, elle le sait. Mais elle ne le peut plus. Elle rêve de le vouloir, mais n'est plus capable d'aucune volonté. Alors, par une sorte de réflexe, chaque nouvelle élection lui est une occasion de sortir les sortants. Comme elle ne cesse de les sortir, elle fait à chaque fois rentrer ceux qu'elle avait auparavant sortis, de sorte que les nouveaux entrants sont les anciens sortants. Que nous vivions un instant critique de la vie démocratique, même les plus optimistes en conviennent aujourd'hui. En 1958, on n'avait guère perdu que la République. En 1968, il n'y avait que l'université qu'on eût fait passer par-dessus bord. Depuis, combien de piliers de notre économie n'a-t-on vu s'écrouler ? Il y avait eu en France une industrie sidérurgique. Elle a disparu. Il y avait eu une industrie textile. Elle s'est évanouie. Quoi qu'on eût longtemps pensé que le corps social ne pourrait supporter 500 000 chômeurs, on en est venu à se rappeler avec nostalgie l'époque où il n'y en avait que 3 millions. Naguère envié et imité du monde entier, notre système éducatif s'est effondré. Comme si le nombre des uns était proportionnel à celui des autres, nous n'avons jamais eu ni autant de bacheliers ni autant d'illettrés. Le pays est si endetté qu'il s'endette chaque jour davantage pour rembourser les intérêts de ce qu'il a emprunté. Le lien social s'est tellement effiloché que plus personne ne saurait encore dire ce qui l'unit aux autres. Or, si vif, si patent, si insurmontable me semble aujourd'hui le hiatus qui s'est creusé entre le corps social et ses mandataires, que la plus élémentaire prudence commande de le résorber, avant que l'édifice n'achève de se déliter. Et quand nous y percevons déjà tant de lézardes, quelque urgence ne nous presse-t-elle pas de l'alléger pour le raffermir et de le restaurer pour le conforter ? À force de multiplier les échelons, les paliers, les étages de la représentation démocratique, n'avons-nous pas fait de cette représentation une corporation et de ce corps autonome une sorte de parasite ? Le très bref essai qui suit ne prétend pas plus répondre à ces questions qu'il ne suggère de solution aux problèmes qu'il pose. Sans ambition théorique, il se borne à dresser un constat. Le pays où j'achève ma vie est devenu pour moi aussi étrange que pouvait le paraître la société de Louis XV à un persan de Montesquieu. N'ayant ni compétence, ni autorité pour rien réformer, je souhaiterais seulement faire partager mon étonnement à ceux qui auront le courage, la lucidité et le discernement de le faire.
Le pays où j'achève ma vie est devenu pour moi aussi étrange que pouvait le paraître la société de Louis XV à un persan de Montesquieu. Monsieur est persan, cela est extraordinaire. Mais comment peut-on être persan, Nicolas Grimaldi ?
C'est très simple. Il suffit de changer fort peu dans un monde qui change beaucoup.
Comme la France ne cesse de les sortir, elle fait à chaque fois rentrer ceux qu'elle avait auparavant sortis. De sorte que les nouveaux entrants sont les anciens sortants. L'épisode pré-présidentiel que nous vivons aujourd'hui vous donne absolument raison, incontestablement raison. Bon, et d'ailleurs, les autres épisodes, les échéances précédentes également. Néanmoins, est-ce que c'est, à vos yeux, le symptôme d'une époque tout à fait particulière, d'une époque dans laquelle nous serions entrés, ou est-ce que c'est chez vous, parce qu'il y a cette dimension-là dans votre façon de penser, est-ce que c'est chez vous, au fond, le sentiment, vous savez, le sentiment de la Bruyère qui disait « dans 100 ans, le monde subsistera encore en son entier. Ce sera le même théâtre et les mêmes décorations. Ce ne seront plus les mêmes acteurs. Tout ce qui se réjouit sur une grâce reçue, ou ce qui s'attriste et se désespère sur un refus, tous auront disparu de dessus la scène. Ils s'avancent déjà sur le théâtre, d'autres hommes qui vont jouer dans une même pièce les mêmes rôles. Ils s'évanouiront à leur tour et ceux qui ne sont pas encore, un jour ne seront plus. De nouveaux acteurs ont pris leur place. En d'autres termes, est-ce que c'est une scène de théâtre qui ne cesse de répartir les mêmes rôles à des acteurs différents, ou est-ce qu'on a effectivement changé d'époque de façon, pour le coup, criante et on verra pourquoi chez vous, non nostalgique d'ailleurs.
Ma réponse va être double. D'une part, je ne pense pas que nous ayons simplement affaire à une sorte de comédie indéfiniment reprise et dont on se borne à rafraîchir ou à changer les décors. Car cette comédie, assez souvent, périodiquement, se change en tragédie. Et une fois qu'on a perdu la liberté, il faut beaucoup de temps et pour la retrouver. Il y a un mot d'ailleurs de Rousseau. La liberté peut s'acquérir, elle ne peut pas se recouvrer une fois qu'on l'a perdue. Par ailleurs, le titre que j'avais donné à ces réflexions était moins dramatique, moins pessimiste que celui-ci, le crépuscule de la démocratie. Le crépuscule, c'était ce que je craignais qui arrivât. J'avais donné comme titre l'empruntant à Benjamin Constant, les regrets sont inutiles. Aussi misérable, médiocre que soit la société, ce que nous observons, nous aurions tort de croire que les choses étaient meilleures naguère. Et j'en ai accumulé un certain nombre d'exemples. Il n'y a pas lieu de croire que c'était mieux auparavant. Mais, et c'était la seule raison d'être de cette publication, il me semblait qu'à force de tirer sur la corde, on risquait de la casser. Or, cette corde m'était précieuse, c'était celle de notre liberté.
Julie Marie.
Tout a toujours très mal marché. Telle était la principale leçon que Peggy avait tirée de l'histoire. Si le monde va mal, réjouissons-nous, c'est la preuve qu'il va. Aussi ne sommes-nous pas plus fondés à nous plaindre du présent qu'à regretter le passé. S'il arrive que le passé nous semble parfois moins misérable que le présent, c'est parce que nous n'en connaissons que ce que nos lectures nous en ont fait imaginer. On voit Versailles, on lit Racine, on admire les peintures de Lebrun. Mais qui a jamais une pensée pour ces dizaines de tâcherons qui périrent dans ces marais pour les combler et les assécher ? Pour satisfaire le caprice d'un prince qui se désennuyait de sa vie par la chasse, on engouffrait des rafles de journaliers qui s'enfonçaient à mi-corps dans ces landes bourbeuses. Qu'il s'agisse de la médiocrité des hommes, de la corruption du monde ou de son injustice, le mal est si inhérent à la société qu'il paraît empirer à chaque génération. Aussi, chacune s'effare-t-elle d'observer que le mal aujourd'hui va jusqu'à la folie. Mais sauf pour ceux qui nous en ont rapporté l'histoire, la vie la plus ordinaire fut presque toujours atroce. Si l'on se rappelle en outre que jusqu'au XIXe siècle, toutes les armées en campagne étaient autant de bandes qui s'approvisionnaient de ce qu'elles pillaient, quelque horreur qu'on en imagine ne pourra approcher de la réalité. Aussi, la réalité a-t-elle toujours été bien pire que tout le pire qu'on en a pu imaginer. Aussi médiocre que soit le monde où nous vivons, il nous laisse néanmoins vivre sans nous y mêler, comme si nous n'en étions pas. En fait de malheur, nos ancêtres en connaissaient donc indubitablement plus long que nous. Non seulement tout y était presque partout assujetti à l'impudence de l'arbitraire et à l'impunité du crime, mais il n'y avait jusqu'aux tâches les plus ordinaires qui ne fussent constamment épuisantes. On naissait, on servait, on s'usait, on mourait. Les uns naissaient pour être servis, et d'autres pour les servir. Vivre alors n'est pas un don, ni moins encore qu'une chance, c'est une fatalité. Nous ne laisserons donc pas dire qu'hier, l'air était plus léger, ni que les jours étaient plus beaux. La meilleure chose que je sache du passé, c'est qu'il est fini par passer.
Je résume votre propos, Nicolas Grimaldi. C'est le règne des démagogues et des tribuns, et les nouveaux entrants sont les anciens sortants. Il n'y a plus d'industrie sidérurgique, il n'y a plus d'industrie textile, on est à plus de 3 millions de chômeurs, les bacheliers sont tous des illettrés, et c'est pourtant mieux qu'avant.
C'est pourtant mieux qu'avant.
C'est pourtant mieux qu'avant.
J'en donne d'assez nombreux exemples. Sans doute...
Donc en fait, c'est un livre optimiste.
Non. Sans doute l'école normale travaillait-elle mieux dans ces années-là qu'aujourd'hui. Mais ce n'est pas une chose très importante. Vous parliez de cette comédie indéfiniment reprise. Oui. Il me semble, en effet, que c'est lorsqu'on lit Lucien Leven de Flaubert, lorsqu'on lit
Stendhal,
le député Narcisse de Balzac, on est frappé combien les mœurs politiques d'aujourd'hui sont peu dissemblables de ce qu'elles étaient alors. De sorte qu'il me semble souvent, à l'occasion d'une anecdote, d'un fait divers ou d'un autre, il me semble que nous ne sommes guère sortis de la monarchie de Juillet. Évidemment, le mandat présidentiel est moins long que n'avait été celui de Louis-Philippe. Et il n'y a pas besoin de barricades pour faire sortir le sortant, comme vous dites. Néanmoins, dans leur substance, dans leur usage, dans leurs ambitions, dans leurs tractations, les mœurs politiques d'aujourd'hui sont assez semblables à ce qu'elles étaient alors.
Mais alors justement, si les mœurs politiques se ressemblent, qui y avait-il ? Comment déplorer le présent sans regretter le passé ? J'ose à peine vous demander ce que vous pensez de l'avenir, mais comment ?
Non, il ne s'agit pas là de philosophie. Quelque chose a considérablement changé entre le 19e siècle politique et aujourd'hui, c'est que jusqu'en 1900 à peu près, il n'existe pas de parti politique. Le premier parti sera la Troisième Internationale, puis il y aura un parti radical, socialiste. Lorsque Tocqueville va se présenter dans la Manche à Valognes, tout le monde peut aller se présenter, j'en dirai deux mots, il voit quelques électeurs, je devrais dire quelques grands électeurs, mais il n'y a que des grands électeurs. Il leur tient des propos raisonnables, leur dit « je ne quitte pas vos suffrages, je me mets simplement à votre service ». Et ces paroles suffisent. Clémenceau faisait de même dans le 18e arrondissement. Nous sommes loin de compte aujourd'hui. N'est-ce pas ? Les partis sont des entreprises à fabriquer, à entretenir, à organiser, autant que possible gagner des élections. Ce sont des sortes d'armées en campagne. Donc ça change complètement les mœurs. Dans leur nature même.
Mais est-ce que, pardonnez-moi, la représentation politique dont vous faites la critique...
Je fais un constat.
Oui, vous vous présentez comme un constat ce que d'autres pourraient lire comme une critique.
C'est cela.
Bon, on peut le dire tout de même. La représentation politique dont vous faites la critique n'est-elle pas tout simplement la condition d'exercice même de la démocratie ? Est-ce qu'il n'est pas possible de concevoir comme un approfondissement démocratique le moment où les candidats, même si c'est un approfondissement qui peut scléroser la parole, qui peut l'enfermer dans un dogme et qui fait que les militants s'attendent à entendre un discours plus qu'ils ne s'attendent à être surpris. Laissons cela, mais est-ce que ça n'est pas aussi un approfondissement de la démocratie ? Est-ce qu'on n'est pas mieux représenté quand on est représenté par quelqu'un qui porte une étiquette ?
Supposez, mon cher Raphaël, que
dites-le au micro aussi, Nicolas.
Supposez que nulle personne ne me semble aussi qualifiée que notre amie, aussi compétente, aussi désintéressée, avec des vues aussi vastes, des desseins aussi audacieux que notre amie. Je veux voter pour elle. Elle ne pourra pas se présenter. De quelle finance, de quel budget dispose-t-elle pour sa publicité ? Aucun.
Mais en l'absence de parti, n'importe qui peut se présenter sous réserve de fortune. C'est un suffrage censitaire.
Non. Tout le monde peut se présenter en droit, encore faudra-t-il obtenir des signatures, des parrainages, etc. Jusqu'en 1900, on votait pour qui vous semblait bon. À partir de maintenant, qu'il s'agisse de presque toutes les élections, soit cantonales, soit législatives, soit présidentielles, vous n'avez le choix qu'entre les candidats qui ont déjà été choisis par des instances qui sont les partis, autrement dit, les organisations industrielles de la politique intérieure. Ce n'est pas moi qui choisis mon candidat. Entre la peste et le choléra, je n'ai le choix qu'entre éviter le pire. Et c'est chaque fois comme cela. Rarissimes sont les électeurs qui se déterminent par une adhésion à la personne pour laquelle ils votent. La plupart prennent le plus grand soin d'éviter celui qui leur paraît un incomparable danger. Ce n'est pas exactement un choix civique.
Si, par exemple, en 2017, aux yeux de certains démocrates, la proposition coutumière, l'adage selon lequel au premier tour on choisit et au deuxième tour on élimine, s'inverse avec le poids du Front National, c'est-à-dire qu'on considère qu'au premier tour on élimine et qu'au deuxième tour il faudra bien choisir entre des candidats peut-être qui ne sont pas à la hauteur ou qu'on ne voudrait pas forcément dans cette fonction, si cet adage s'inverse, est-ce que ce n'est pas une façon de prendre le contre-pied au fond de ce que vous dites? Est-ce qu'en définitive, il ne s'agit pas dans un premier temps d'éliminer qui nous semble moins démocratique pour ensuite en venir à une élection qui peu ou prou ressemble à un choix?
Votre adage était valide, pertinent, au début de la Troisième République, lorsque n'importe qui pouvait se présenter au premier tour, et au premier tour on choisit. Mais maintenant on ne choisit pas. Au premier tour, vous avez le choix entre des candidats qui ont déjà été préalablement choisis par les instances du parti.
Pas nécessairement, Nicolas. À part Jacques Cheminade, qui avait été choisi par Casimir, si vous voulez, mais à part lui, Jacques Cheminade, souvenez-vous de Jacques Cheminade, qui n'avait pas de structure, peut-être une secte derrière lui, mais enfin, il n'y avait personne derrière lui. Bon, 80 000 voix.
C'est vous qui l'avez dit. J'ose vous rappeler un petit fait d'histoire politique française dont on connaît la substance, mais dont la plupart ne connaissent pas, comment dirais-je, la littéralité. On était en 66. Plutôt, on allait être en 66. Allait être organisée une nouvelle présidentielle. On ne savait pas si De Gaulle allait se présenter ou non. Il ne disait rien. Pompidou lui-même n'en savait rien. Et la gauche qui avait déjà formé, entre Guimolet et Valdez-Crochet, un programme d'union de la gauche. Il nous faut quand même un candidat. Moi, dit Valdec, je ne peux pas. Je suis communiste. Moi, dit Guimolet, je ne peux pas. J'ai épousé à 20 ans, à Arras, une demoiselle qui n'a pas beaucoup changé, que j'aime autant, mais qu'on ne peut pas imaginer dans un palais de l'État. On pourrait... Mendès France. Tout le monde aurait bien voulu Mendès France, mais il est juif. Il y avait évidemment le président du Sénat, mais il était coloré. Alors, de faire, je mets le veto, dit Guimolet. Mitterrand, à aucun prix, disent tous Mitterrand. Bien sûr que non. Et Valdec rajoute, il n'a aucune chance de toute façon. Autant convenir de Mitterrand. Et une fois qu'il se sera usé, on en trouvera bien un dans 7 ans. Et voilà comment les choses se sont passées. Ce n'est pas les électeurs qui ont choisi. C'est autour d'une table, entre 3 cafés et 2 verres de bière.
Pourquoi pas?
Alors, j'entends bien. Mais
pourquoi pas?
Choisir, c'est aussi élire. Je veux dire, quelqu'un qui a ma confiance, auquel j'envisagerais de confier... Le destin de la nation, quelqu'un qui a pris la mesure à la fois des difficultés et des exigences, cela existe. Imaginez que si cela existait, il faudrait auparavant qu'il eût été avalisé, autrement dit, que les partis eussent renoncé à leur propre dignitaire pour prendre si vous me permettez le mot, un étranger. Autrement dit, un amateur, quelqu'un qui n'est pas un professionnel.
François Mitterrand avait été 11 fois ministre sous la 4e République. Ce n'était pas le perdreau de l'année non plus.
Je ne vous raconterai pas d'autres anecdotes.
Ah, c'est dommage.
Vous lirez les comptes rendus de Perfit, quand il prend des notes à tous les entretiens qu'il avait avec de Gaulle.
Avant ça, on va entendre votre texte. Nicolas Grimaldi, la démocratie n'existe nulle part, c'est vous qui le dites ou qui le constatez.
Ce n'est pas moi qui le dis. Rousseau dit, dès le 4e chapitre du premier livre...
Que c'est un idéal irréalisable et contre nature.
La démocratie n'a jamais existé et n'existera jamais nulle part. Et Raymond Aron, dans le cours élémentaire de philosophie politique, dit « Toute démocratie est une oligarchie. Qui dira le contraire ?»
On va en parler. Julie Marie.
Si on entend par démocratie le gouvernement du peuple par lui-même, cela n'a jamais existé.
J'entends bien. Julie Marie.
La démocratie n'existe nulle part. Toutes les difficultés d'une démocratie viennent de ce qu'elle ne peut s'exercer sans que le corps social ne désigne des représentants et de ce qu'elle ne peut se déléguer sans se trahir ou se perdre. Dès qu'on charge quelques particuliers d'exprimer la volonté générale, ce n'est plus la volonté générale qu'il exprime, mais ce qu'il généralise de la sienne. Même dans les pays dont elle constitue de façon rhétorique le mythe fondateur, le plus de réalité qu'elle est n'est que celle d'un leurre. Et en effet, de quelle démocratie peut-il s'agir dans un pays où les chances d'un candidat se mesurent à son budget de campagne ? Une élection s'achète en effet comme s'achète la publicité qui en assure le succès. Or, quel démocrate a-t-on vu s'indigner, ni même s'étonner, du cirque qui accompagne son candidat ? S'il ne s'en scandalise pas, c'est que le succès est à ce prix. À la lettre près, la formule mériterait qu'on la méditât un instant. À quel démocrate, en effet, ne devrait-elle paraître atroce ? Aussi vais-je risquer une question plus audacieuse ou plus provocatrice encore. Est-il bien certain que cette pseudo-démocratie soit le régime qui corresponde le mieux aux attentes de la société contemporaine ? Pour banale que paraisse la question, je crains néanmoins que l'enjeu n'en soit considérable. Car aussi indéfendable que soit la démocratie, il n'y a pourtant qu'elle pour nous défendre du pire, en tenant à distance le péril toujours latent du despotisme ou du totalitarisme. L'un des plus sarcastiques paradoxes de l'histoire est que ce soit en effet au régime le plus prosaïque qu'elle confie la tâche de nous préserver des illusions, et au moins séduisant, de nous garder de toutes les séductions.
Donc, la démocratie n'existe nulle part, Nicolas Grimaldi. L'argument de Rousseau, pour mémoire, c'est le grand paradoxe du contrat social qui a été brandi par d'excellents démocrates, Robespierre, à l'appui de leur démarche, que ce livre ait lui-même pris soin de mettre en garde ceux qui voulaient y voir un remède, une méthode, un mode d'emploi démocratique, puisque Rousseau dit « la démocratie est irréalisable et contre nature ». Mais l'argument de Rousseau, on va revenir dessus, c'est que... la démocratie, les conditions de possibilité d'une démocratie, c'est-à-dire à ses yeux d'une démocratie directe, ne sont pas réunies. Il faut un État très petit, il faut un peuple dont le génie démocratique soit réel, il faut une capacité humaine à se vouer continuellement à la chose publique, et surtout, dit Rousseau, il faut bannir le luxe. Mais parmi ces conditions, il y en a peut-être une qui est remplie aujourd'hui par Internet. C'est l'enjambement de la représentation. C'est-à-dire que on passe au-delà des représentants au profit d'une expression directe. Alors certains diront que c'est une modalité liberticide de la liberté, puisque chaque électeur devant son ordinateur devient le représentant d'une opinion qu'il croit singulière, mais qui est, comme toutes les opinions, aussi générale que possible. Est-ce que le texte que vous écrivez ici ne s'inspire pas davantage de Rousseau qu'il ne prend acte d'éventuelles modifications contemporaines ?
Il y a 1000 questions, vous êtes si dense, si concis et si profond qu'il y a... C'est comme le...
Ne croyez pas vous en sortir comme ça, Nicolas.
C'est comme un prisme qui décompose la lumière. Aussitôt, il y a une...
Il en faut plus pour vous impressionner.
D'innombrables franges lumineuses. Je vais essayer de répondre un peu à chacune de ces franges. D'abord, Rousseau écrit un programme théorique et quasiment mythologique. Il présente ce que pourrait être un idéal démocratique si la chose était envisageable. Il est d'ailleurs très frappant dans le contrat social qu'une première partie décrive les conditions d'exercice de ce qu'il appelle plus volontiers république, c'est-à-dire l'expression de la souveraineté nationale par la volonté générale qui n'est autre que la loi, tandis que l'autre versant, pardonnez-moi ma cuistrerie, l'autre versant commence à partir du 7e chapitre du 2e livre. Tout d'un coup, on abandonne cette description de la République où chacun se reconnaît en tout autre, où chacun exige des autres ce que sa conscience exige de lui-même. Et on énumère alors toutes les conditions réalistes, contingentes, particulières, indispensables pour qu'un tel État pût se concevoir. Comme le disait Raphaël Antoven, la première, et que les gens se connaissent, par conséquent qu'il soit de petite dimension, car Rousseau le sait dit qu'un État est d'autant plus fort pour se défendre qu'il est plus petit. Mais en outre...
Et que tout le monde s'y connaît.
Mais en outre, il faut qu'il y ait, si j'ose dire, c'est un problème rousseauiste, un problème dans la philosophie même de Rousseau. Une unité préalable, qui se conçoivent eux-mêmes comme un peuple. Et cette unité dont ils veulent affirmer et caractériser l'identité. C'est parce qu'ils sont d'abord un peuple que la volonté des uns doit se reconnaître dans celle des autres. Et c'est à cette condition qu'il y a une volonté générale. Tous les professeurs de philosophie qui expliquent cela, un peu à la manière dont l'avait entendu Robespierre, en conclut que la volonté générale, qui n'est pas la volonté majoritaire, car on peut être minoritaire et exprimer la volonté générale. La volonté générale, c'est la volonté du genre humain. Et c'est la volonté générique. C'est ce que tout homme, en tant qu'il est un homme, doit vouloir pour l'humanité. Et en tant qu'il est un homme, tout homme en exige autant qu'un autre. Et par conséquent, il n'y a pas de démocratie capacitaire. Il va de soi que cette compétence que chaque homme a pour être citoyen ne s'applique, ne s'adresse, ne concerne que des questions générales, très générales, du juste et de l'injuste, de l'acceptable et de l'inacceptable, etc. Et il ne descend pas, l'expression de Rousseau, la volonté générale ne concerne jamais le particulier. Or, ce que font nos politiques, en codifiant, en légiférant sur la vitesse des moteurs, s'il faut de l'essence comme ci, l'essence comme ça, s'il faut manger de la margarine ou pas manger de margarine, s'il faut que les enfants aient l'école à 5 ans ou à 5 ans et demi, etc., etc. Cela ne devrait pas être dans une république l'objet d'une législation, mais l'objet d'une réglementation. Autre chose est le fait d'administrer et autre chose le fait de gouverner.
Donc en donnant un contenu à ce qui devrait rester une forme, on compromet l'exercice de la démocratie. Au fond, l'État s'occupe de ce qu'il
ne devrait
pas regarder.
Et le gestionnaire n'est pas un gouvernant. Le gouvernant confie à des gestionnaires, que Rousseau appelle ses ministres, ses fonctionnaires, la charge de régler les affaires particulières. La dimension des chemins vicinaux, des routes nationales, etc., etc. Si on roulera à gauche ou à droite.
Enfin, la raison première pour laquelle chez Rousseau la démocratie est impossible, c'est qu'on ne peut pas obtenir d'un homme qu'il ne soit pas égoïste. On ne peut pas obtenir d'un homme qu'il ne fasse pas le calcul de son intérêt. On ne peut pas obtenir d'un homme qu'il ne se voue pas continuellement à la chose publique. On n'est pas des Grecs, athéniens du 5e siècle.
Donc, vous soulevez un grand problème dont je vais dire deux mots. Le premier concernant Rousseau, le second concernant ce qu'on a appelé les doctrinaires, c'est-à-dire ces gens qui se sont efforcés de penser la politique lorsqu'ils avaient échappé à la terreur et qu'on n'était pas encore tombé dans le Second Empire. Guizot, Royer Collard, Rémusat, Cousin, etc. Premièrement, Rousseau. Rousseau dit en effet qu'il faudrait des sortes de saints, des gens qui renoncent à l'amour de soi.
Ou à l'amour propre.
Et qui préfèrent en quelque sorte l'intérêt général à leur intérêt particulier. Mais Rousseau ajoute que dans le pacte social, celui qui sacrifie son intérêt particulier, il retrouve aussi son avantage, car l'ensemble de la communauté, l'ensemble de la République prête sa force à chaque particulier pour sa sécurité et sa propriété. Et Rousseau ajoute, il faudrait pour cela des saints, c'est-à-dire renverser l'ordre logique de mon projet. Mon projet républicain est de former un État tel que tous ces citoyens deviendront capables d'abnégation, de sacrifice et de générosité. Ce sera le résultat, ce sera l'effet de la République. Tandis que, lorsqu'on dit qu'il faudrait d'abord des saints, c'est mettre la chose à l'envers, c'est mettre l'effet avant la cause.
Oui, mais c'est là qu'il est utopique, notre camarade Jean-Jacques. Penser qu'une institution est de nature à modifier les consciences, est-ce que ça n'est pas mettre la charrue avant les bœufs ?
Plus qu'une institution, une constitution.
Oui.
Une constitution, c'est-à-dire ce qui règle la manière de vivre de chacun, ce qui oriente les règlements de l'administration, etc. Bon. J'en viens. Comment développer l'esprit civique des citoyens ? Question banale. Cette question s'est posée vers 1830 à tous les philosophes de la vie politique. Et tous étaient unanimes à confier à l'éducation et par conséquent aux instituteurs de veiller sur les vertus républicaines. À l'éveiller, l'entretenir, etc. Or, Guizot, Royer Collard mettent en évidence la difficulté de ce projet. En effet, s'il était possible, ce serait la solution. Donc, on confie aux instituteurs le magistère de la République. On lui confie l'esprit même de la République. Par conséquent, on attend d'eux des vertus d'abnégation, de sacrifice, de générosité, d'attention, de vigilance, etc., etc., que l'État ne récompensera que pour le plus misérable des salaires, puisque un instituteur gagne à peine plus qu'un loufia. Tous ont perçu ce hiatus, cette contradiction entre la vocation qu'on leur fait assumer, entre ce qu'on attend d'eux et l'humiliation qu'on leur fait subir par leur salaire.
Le problème
ayant été vu, il va de soi que personne ne l'a résolu.
Voilà. Sous quel régime vivons-nous ? C'est la question que vous posez, à laquelle vous essayez en un sens de répondre. On va entendre le texte dans lequel vous posez cette question, Nicolas Grimaldi. Et avant cela, je voudrais qu'on écoute un extrait du Maud Cambronne, la pièce de Sacha Guitry, qui, pour mémoire et pour l'anecdote d'ailleurs, est la 100e pièce de Sacha Guitry, et donc pour la représentation de laquelle il avait fait venir une centaine d'amis, et à qui il avait dit « Je n'ai qu'un mot à vous dire, il commence comme le Maud Cambronne, mais il finit par « si ». Écoutez Guitry.
Ainsi l'histoire à quoi ça rime? Et comment voulez-vous que je m'y reconnaisse quand depuis ma jeunesse, 5 fois déjà la France a changé de régime? En 1790, on nous a dit les rois de France, exemple de bonté, modèle de vaillance, furent des hommes sans défaut. Alors on a crié « Vive les rois de France !» 3 ans plus tard, on nous a dit que c'était faux, que nous leur devions nos souffrances et qu'ils n'avaient que des défauts. Alors on a crié « Ah bah les rois de France !» On nous a dit ce qu'il nous faut, à nous, peuple français, c'est une république. Alors on a crié « Vive la République !» Mais voilà que 5 ans plus tard, ça se complique et change encore. On nous explique « Très grande erreur, la République, c'est le pire. Ce qu'il nous faut, c'est un empire. Sans nous faire prier, nous avons tous alors crié « Vive l'Empereur !» En 1814, on nous a fait comprendre que les Bourbons avaient du bon, et mon Dieu, qu'à tout prendre, en un tel désarroi, ça valait mieux encore. Alors, nous avons de nouveau crié « Vive le roi !» Mais en 1815, à son retour, en chœur, le 26 février, nous avons recrié tous « Vive l'empereur !» Mais vers la fin du mois de juin, quand il est reparti pour la seconde fois, nous avons de nouveau crié « Vive le roi !» Il en sera toujours ainsi, je le suppose, aussi longtemps que durera notre pays, car la France obéit, pourvu qu'on l'autorise à crier quelque chose.
Sous quel régime vivons-nous? Nous ne le savons pas. À peine disposons-nous même de mots qui puissent le définir. À moins de les détourner de leur sens, on ne peut en effet pas dire qu'il s'agisse d'une démocratie. Pas davantage ne s'agit-il d'une république. Quoique beaucoup le pensent et parfois le dénoncent, on ne pourrait dire non plus sans abus de langage qu'il s'agisse d'une monarchie. Comment caractériser alors un régime qui ne suspend aucune des libertés, quoiqu'il n'y ait presque aucune limite à celle du premier de ses magistrats? La finance y gouvernant l'économie, l'économie y réglant la politique. Il va de soi que l'argent y mène tout, et que celui qui peut tout dans l'État n'y peut rien contre la volonté et les intérêts de ceux qui mènent le jeu du monde. Nous avons donc affaire à une oligarchie. Par un incessant échange d'informations et de services, politiques, chefs d'entreprise et régents de presse constituent à eux seuls une sorte de société où tout se traite, se négocie et se décide sans qu'il n'en paraisse rien au dehors. Cette configuration oligarchique est si démultipliée, si diffuse, si généralisée, qu'il n'est si mince ou même si dérisoire par celle d'autorité qui ne se délègue par le consentement de minuscules coteries, de conseils, de commissions, de comités plus ou moins cooptés et plus ou moins clandestins. À tous les niveaux, nous allons en effet rencontrer des bureaux, des commissions d'investiture et des syndicats de grands électeurs. Alors, sous quel régime vivons-nous? S'il est aussi indéfinissable, n'est-ce pas que les catégories sous lesquelles nous tentons de le penser ne correspondent plus à aucune réalité? Nous en voici conduits à poser une question dont le seul fait qu'elle puisse être soulevée aurait scandalisé ceux qui, à une seule voix de majorité, firent adopter la République. La forme d'un régime a-t-elle la moindre importance politique? Et si ce n'est pas la forme, qu'y a-t-il alors qui, principalement, importe à la vie politique de n'importe quel pays?
Nicolas Grimaldi, vous avez dit au début que notre démocratie ne l'était pas, puisque c'était une démocratie qui était représentative. Le caractère représentatif de la démocratie venait contredire immédiatement la vocation de la démocratie, qui est au fond d'être une démocratie directe. Est-ce que ça n'est pas contradictoire avec le fait de dire qu'au fond, la forme d'un régime n'a pas la moindre importance politique? Ça, c'est ma première question. Et deuxièmement, le diagnostic que vous formulez là, si bien écrit, si précis, ce diagnostic n'est-il pas, pardon, mais avant d'être le vôtre, celui de Platon? Je parle du livre 8 de la République, pardon, à mon tour de faire le cuistre, du livre 8 de la République, du portrait qu'il propose de l'homme démocratique, que vous connaissez par cœur, dans lequel, pour mémoire, l'homme démocratique est défini par Platon comme celui qui change d'avis, comme il change de vie, qui un jour peut être un financier, le lendemain est un marin, qui un jour est de bonne humeur, le lendemain est de mauvaise humeur, un jour est ivre, le lendemain est sobre. Bref, c'est l'homme de l'indécision, c'est l'homme de la volatilité, et à cet égard, le régime qui viendrait garantir les droits de cet individu est un régime qui dégénère fatalement en oligarchie. Quelle différence entre votre analyse et, pardon, celle de Platon, en l'occurrence, qui pourtant n'était pas étayée par les exemples que vous avez sous les yeux? Le monde a-t-il tellement changé?
Votre question, si juste, si pertinente, vient de ce que...
Ça commence
que...
mal.
Non, vient principalement de ce que nous employons le mot, l'expression... démocratie, démocratique, pour désigner en général tous les régimes qui ne sont ni totalitaires ni totalement despotiques. Un peu d'ordre, de précision, de pertinence, d'austérité dans le vocabulaire peut-être conviendrait à ce sujet.
Vous voulez dire que le mot de démocratie est galvaudé?
Je veux dire que la démocratie telle que la décrit Platon est assez semblable, la démocratie telle que la décrit Platon et Chryso le remarque lui-même, ce que Platon décrit au 5e siècle avant Jésus-Christ comme démocratie, c'est ce qu'aujourd'hui nous appellerions diguiso, anarchie. C'est-à-dire, chacun fait ce qui lui plaît. Et par conséquent, c'est une sorte, rien n'est plus plaisant, rien n'est plus charmant, rien n'est plus bigarré, rien n'est plus amusant qu'un tel régime. C'est une sorte de, dit-il lui-même, une foire de tous les régimes, de toutes les constitutions. Chacun y vit selon sa loi, de sorte qu'il y a quasiment autant de nations que d'individus. Mais ne se font pas la guerre, il y a bien quelques escarmouches, mais pas plus que cela. Quand Guizot, Royer-Collard pensent à la démocratie, ils pensent, premièrement, aux journées du 14 juillet et au marquis de Launay sur la Pique ou la marquise de Lamballe. Ils pensent aux journées de février et plus encore aux journées de juin 1848. C'est-à-dire, comment dirais-je, la convulsion de l'émeute, une foule que rien ne peut retenir, qui prend l'impulsion de chaque instant pour la loi du prolétariat, etc. Et il leur semble à tous, alors que aussi bien la démocratie telle que l'a décrit Rousseau, que l'émeute populaire telle qu'ils l'ont si souvent vue, sont à la fois, dans sa théorie, le suprême idéal de la politique et dans sa pratique, le pire danger. Et il en va de même pour la République. Si la République consiste à exiger de tous ce que la morale exige de moi-même, si j'attends de moi-même ce que j'exige de tous les autres, ce sera la dictature de la vertu. Et on fera alors comme Robespierre, et on dira comme Robespierre dans ses discours de Pluviose ou 15 jours avant le 9 Thermidor, « Quiconque est mon ennemi dans la Convention, il est l'ennemi de la volonté générale, donc il est l'ennemi du genre humain. » Puisqu'il est inhumain, on ne perd rien à le supprimer. La République, c'est recto verso. Ce sont ces deux choses-là à la fois. C'est la vertu et la terreur. Et la démocratie, c'est la liberté et la démence. Donc, nous en sommes venus à nommer presque indifféremment démocratie ou République tout régime qui respecte l'état de droit, et aucun cas les institutions régissent l'exercice des individus ou l'initiative des individus. Alors quand vous m'interrogiez sur la forme du régime, je ne faisais que répéter des choses aussi vieilles, si j'ose dire, qui datent de 1814. Je répétais ce que disait Chateaubriand. Lorsque Chateaubriand disait « Il y a bien des monarchies sous lesquelles on est bien plus libre que sous la République. » Et je vous le demande. Est-on bien plus libre dans la République du Kachastan? Ou est-on beaucoup plus libre dans la démocratie populaire de Corée du Nord que dans le Grand-Duché du Luxembourg, le Royaume d'Espagne ou la Grande-Bretagne? Si l'on pense comme Rousseau, si l'on pense comme Robespierre, l'humanité qui est en chacun de nous exige ce que je suis en droit d'attendre de tous les autres, et de moi le premier. Quiconque s'y soustrait, se soustrait à son humanité. Par conséquent, nous n'avons aucun motif de le protéger, de le secourir. C'est un danger, il faut l'éliminer. Si c'est l'humanité qui parle en moi, il va de soi que tous les hommes doivent penser la même chose. Et que par conséquent, s'il y a 95% de oui aux élections, c'est normal. Puisque c'est le bien commun que tous veulent accomplir. Et s'il y a quelques-uns qui ne reconnaissent pas l'exigence du bien commun, ce sont des aliénés. Ils ont, si j'ose dire, l'humanité, leur propre humanité les a abandonnés. Ils sont bons pour les asiles.
Comprenez-vous qu'en 1968, des gens saisis d'ennui, tout simplement, aient éprouvé le besoin de donner un coup de pied dans la fourmilière?
Il me semble avoir déjà entendu tenir à cette époque les mêmes propos. Et l'on me disait, ce sont des petits bourgeois gavés, et par conséquent, c'est la gueule de bois du dimanche soir. Ils ne savent pas quoi faire pour s'amuser, car ils ont usé tous leurs jouets. Je ne suis...
Avez-vous jamais regardé mes 68 autrement que comme ça ?
J'ai 68 à deux faces, ou deux moments. Il a un moment parisien et universitaire, et un moment national et ouvrier. Ils sont complètement distincts, tellement distincts qu'ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre.
Sauf que l'un a engendré l'autre, puisque le Parti communiste, feignant d'organiser des événements qui lui échappent, a emboîté le pas aux étudiants. Quand même.
Vous m'entraînez sur un terrain...
À dessein. Pour le...
Non, où je ne me sens aucune véritable compétence, et dans lequel, par ailleurs, je serais partie prenante si je devais juger. Car il me semble que le rôle d'un professeur est d'instruire ses élèves, et non pas, je ne sais pas, de lire avec eux les fables d'Ésope.
Comment le professeur que vous étiez déjà a traversé cette période, et qu'avez-vous perçu dans le comportement des élèves qui vous sembla inquiétant?
Dans le comportement des élèves, pas grand-chose.
Raymond Aron disait, par exemple, je ne supportais pas qu'on m'interrompe. C'est pour ça que je n'étais pas 68 heures. Pardonnez-moi, je viens de le faire.
Mais on peut parfaitement m'interrompre. Je n'appelle pas les gendarmes. Je me tais. Si quelqu'un entre dans mon amphithéâtre alors que je suis en train de faire ma leçon, par courtoisie, je m'arrête. Jusqu'à ce qu'il ait pris place. Et s'il arrive que quelqu'un parle, comment dirais-je, voix trop haute dans l'amphithéâtre, je lui prie d'accepter mes excuses pour le dérangement que je dois lui causer, et je m'interromps le temps qu'il ait fini. Mais ça, c'est ma pathologie. C'était ma manière de concevoir ma fonction. Si l'on dit qu'on n'aime plus le cours magistral qu'à cela ne tienne, je prends ma retraite. J'ai trouvé que 68 chez les étudiants était, d'une manière extravagante, très 48-art.
1848, hein ?
Oui, 1848, oui. Ah, 1948, c'est autre chose, c'est le coup de Prague. C'était plus sérieux. Non, je dis 48, quand vous lisez l'éducation sentimentale, vous avez 15 pages qui en quelque sorte, décrivent l'atmosphère de 1968 dans les universités.
Est-ce que mai 68 ne concentre pas la totalité des pathologies que vous repérez ou que vous diagnostiquez dans le phénomène démocratique, à vos yeux?
Enfin, vous m'invitez à faire des confidences qui seraient...
Pardonnez-moi, Nicolas, c'est un livre que vous avez écrit à la première personne.
Qui risque d'être indélicate à force d'être indiscrète. Ce ne sont pas les étudiants qui m'ont surpris en 68. Ce sont les professeurs. À partir du moment où il n'y avait plus entre nous de volonté générale possible, nous n'étions plus des collègues. Et par conséquent, je n'avais plus directement rapport qu'à l'État qui me payait, sans avoir rapport à mes collègues qui n'avaient plus envie d'enseigner. D'ailleurs, pour juger de leur sincérité, de leur idéal, il suffirait de regarder ce qu'ils sont devenus. Enfin, il y a quand même un problème grave. Vous parliez de 1948, c'est de cela qu'il s'agit. C'est de vivre dans un régime où chacun, comme le décrivait Tocqueville, peut mener sa vie sans autre envie que de vivre encore un peu. Après tout, ce n'est pas ambitieux, mais ce n'est pas non plus un vice de vouloir aimer la vie. C'est rarissime dans l'histoire qu'un peuple, presque dans son intégralité, puisse mener sa vie comme il l'entend et occuper ses loisirs selon son gré. C'est ces libertés médiocres, bourgeoises, petites bourgeoises, sans ambition, où chacun renonce à être une grande individualité historique. Après tout, c'est peut-être une sorte de déférence devant le miracle qu'est la vie. Vivre, c'est déjà beaucoup. Je voudrais dire deux mots sur Tocqueville. Deux mots. Quand Tocqueville nous décrit la démocratie, c'est la nouveauté qu'il découvre en 1831 en abordant aux États-Unis. Et il est stupéfait, enfin étonné, d'une population dont l'unique passion obsédante, tatillonne, rigoureuse, soit celle de l'égalité. L'égalité, pour eux, l'emporte sur la liberté, dit Tocqueville. Or, ce pays que découvre Tocqueville, il faut encore 20 ans pour que le développement industriel, l'amoncellement des richesses, l'accumulation capitaliste, y fasse naître le capitalisme et produise les plus grandes inégalités. Ce que Tocqueville ne pouvait pas avoir vu. La description que fait Tocqueville de la démocratie, c'est dans l'ère pré-industrielle, ce qui change tout.
Mais le portrait qu'il propose de la société en 1835 est un portrait dont la pertinence stupéfie celui qui le découvre.
C'est vrai.
Pardonnez-moi tout de même.
Non,
c'est une société pré-industrielle, je veux bien. Mais enfin, l'image de cet individu, c'est l'image de cette servitude volontaire, de ce pouvoir immense et tutélaire dont le retour est ménagé par l'égoïsme individuel. Enfin, quelle différence ?
Non. Il y a deux idées ici. Première idée, c'est que cet égalitarisme tatillon rend impossible l'expression de toute originalité. Par conséquent, la pression du corps social est telle qu'elle vous condamne à l'uniformisme ou au silence. Ça, c'est le premier Tocqueville. Après, avec le développement du capitalisme, va se développer de prodigieuses inégalités économiques. Et ce que l'on verra alors, c'est que c'est une idée qui est déjà chez Guizot, à savoir qu'on peut avoir une noblesse sans aristocratie et une aristocratie sans noblesse. On aura une noblesse d'argent, mais qui n'aura rien d'aristocratique dans ses goûts et dans sa manière de penser, car en cela, elle sera aussi populaire lorsque l'idéal états-unien était celui des pantoufles.
Je voudrais qu'on entende, pour clore cette discussion en votre compagnie, un texte qui n'est pas de Tocqueville, mais d'un autre aristocrate dont la noblesse est toute spirituelle, c'est vous, hein, Nicolas, et c'est Julie-Marie Parmentier qui va le lire.
Tous les vendredis en 1968, je faisais cours dans l'amphithéâtre Cauchy, à la Sorbonne. Les étudiants m'y entendaient expliquer Descartes et Spinoza. Le 5 mai, comme je débouchais sur la place, j'entendis vers le bas du boulevard la rumeur scandée d'une manifestation, rompue de temps à autre par l'explosion de quelques pétards. Casqués, des escouades de sergents de ville se hâtaient vers la rue des Écoles. Devant la statue de Montaigne, passaient des pelotons de gendarmerie en tenue de combat, bardés de grenades, le casque au ceinturon et le fusil à la main. Rien ne m'étonna ensuite davantage que la rapidité avec laquelle se propagea cette épidémie de contestation et de violence. Des raisons de se révolter, j'en aurais trouvé mille, mais aucune de celles-ci n'était aussi la leur. Or, le fait très provisoire d'avoir 20 ans, que pouvait-il y avoir de commun entre tous ces étudiants ? Les uns avaient ou espéraient avoir tous les privilèges dont les autres seraient à jamais privés. Quant à la culture bourgeoise que tous allaient bientôt dénoncer à grands cris, y avait-il rien qui caractérisât davantage cagneux et normalien que l'agitation finissait par gagner ? Nous, qui avions 30 ans, les vieux, considérions au contraire que le propre de la bourgeoisie était d'être face à la culture comme une poule devant un dictionnaire. Cela lui était si étranger qu'elle ne s'en offusquait pas même. Nous n'allions d'ailleurs pas tarder à en avoir la preuve. Si indifférente était en effet la bourgeoisie à tout ce qui concernait la culture, qu'elle laissa ses rejetons l'anéantir sans lever le petit doigt ni hasarder un soupir. Aussi ne se rappelle-t-elle de 68 que d'avoir failli manquer d'essence. Comme les champignons après la pluie étaient apparus partout, siégeant sans désemparer, des assemblées, des comités, des commissions, tout cela rangué, conspué, déclamé, vociféré, un monde nouveau allait naître sur les ruines de l'ancien. Dans les universités, les programmes seraient désormais fixés par les étudiants eux-mêmes. Qui mieux qu'eux pouvait en effet savoir ce qui leur était le plus utile d'apprendre ? Sur le moment, je ne m'étais pas plus rendu compte de la bizarrerie que de l'ampleur de l'événement. Ce régime, qu'un pronunciamiento militaire avait imposé à la République, la morgue cynique et sentencieuse de ses ministres, m'inspirait à leur égard autant de mépris que les conditions misérables dans lesquelles ils m'imposaient de travailler me les rendaient haïssables. Aussi ce mois de mai allait-il opérer dans mon existence une révolution. Avec quelle véhémence n'avais-je en effet aspiré au soulèvement qui mettrait fin à l'absurde prétention d'institutions toutes plus dérisoires et vermoulues les unes que les autres. Ce changement que j'avais tant espéré, il se produisait, il était là, je l'avais sous les yeux. C'était tout le pire de ce que je détestais. À l'ancienne arrogance, je voyais s'en substituer une autre, celle de l'ignorance. À l'inculture des parvenus allait succéder celle des avant-gardes. Au cynisme de ceux qui se distribuaient des places se substituait celui de ceux qui prétendaient à toutes. Mais il y avait bien pis que la présomption, l'outrecuidance et le mauvais goût. Déjà prétendait s'imposer partout la pire des tyrannies, celle du n'importe quoi.
Julie-Marie Parmentier. Merci à tous. L'émission que vous venez d'entendre a été enregistrée dimanche 28 juin 2015 à Toulouse, dans l'adorable auditorium de Saint-Pierre-des-Cuisines, à l'occasion du Marathon des mots et dans le cadre de notre série Le Pouvoir Imaginaire, une série proposée et animée par Raphaël Antoven en partenariat avec Philosophie Magazine. Vous pouvez retrouver toute cette série d'émissions, donc Le Pouvoir Imaginaire, sur le site de France Culture, où vous attendent téléchargement et bibliographie, comme vous pourrez retrouver toutes les émissions du Gai Savoir. Un grand merci à l'issue de cette série, à toute l'équipe du Marathon des mots et tous ses anges gardiens, et pour France Culture, à Virginie Noël, Sandrine Trainer, Olivier Poivre d'Arvor, Rafik Zénine, Guillaume Rialan, Yvan Turc et Hervé Dubreuil à la technique. Un immense merci bien sûr à Alice Ramon et Julien Tricard, sans qui ces émissions n'auraient pas vu le jour. Merci enfin de tout mon cœur à notre lectrice Julie-Marie Parmentier et notre invité Nicolas Grimaldi, à qui j'aimerais quand même dire ceci. Le monde est beau, cher Nicolas, et hors de lui point de salut. C'est quand il rase le sol que le soleil brille le mieux. C'est à la dernière minute qu'on a soif de la vie. C'est sur le quai de la gare que les amants s'aiment le plus. Et c'est d'ailleurs juste avant de mourir que Rousseau écrit le moins mauvais de ses livres. Le crépuscule a la sagesse, la finesse des sentiments indécis. Il brille de guerre lasse et la tête haute, comme un amour embelli qui, l'âge venant, se déshabille plus volontiers. Bref, le crépuscule, à tous égards, c'est le contraire de la nuit. Ainsi s'achève notre série sur le pouvoir imaginaire. L'an prochain, c'est-à-dire à l'été 2016, c'est du rêve que nous vous parlerons sur France Culture. La vie est-elle un songe? Quelle différence entre le songe et la réalité? Descartes rêve-t-il éveillé ou bien est-il éveillé dans ses rêves? Shakespeare était-il fou? Calderon et Corneille étaient-ils somnambules? Autant de questions auxquelles nous tenterons de ne pas répondre. Bonne rentrée, chers auditeurs sur France Culture, une rentrée sans Gai Savoir cette fois-ci, puisque le Gai Savoir a tiré sa révérence en juin dernier. Les temps changent, la vie aussi. Travailler pour vous fut un bonheur, un honneur et une joie. Continuez d'être fidèles à cette station merveilleuse, où je vous retrouverai avec la même joie l'été prochain. Dans un instant, Martin Kénéhen, une vie, une heure. We'll be right back.
Thank you.